old records never die.
Soyez les bienvenus à l'écoute de ce nouveau numéro de Old Records Never Die. Chaque année, les arènes accueillent le festival de Nîmes aux alentours du mois de juillet. C'est une dénomination un peu trompeuse car il ne s'agit pas vraiment d'un festival avec plusieurs formations se produisant en un même lieu sur une période de 2 ou 3 jours. C'est une série de spectacles divers et variés, allant de la variété française au rap en passant par le rock ou encore autre chose. C'est un choix des organisateurs que de ne pas privilégier un genre musical plutôt qu'un autre. La notoriété de certains artistes, le lieu historique et majestueux des arènes font aussi que les prix des places ne sont pas toujours abordables. Bon, quoi qu'il en soit, cette année verra un événement de portée internationale car The Cure viendra y donner 3 concerts consécutifs. Initialement, il y en avait 2 de prévus, mais un 3e a été ajouté quand on a vu les places s'acheter à une vitesse incroyable. C'est donc l'occasion de revenir sur l'histoire de ce groupe, The Cure. Alors l'histoire de ce groupe commence en 1973 à Crawley dans le Sussex. Un groupe composé d'adolescents se monte. Il ne sera connu que dans sa sphère familiale et amicale. Le guitariste Robert Smith a envie de continuer et monte un autre groupe au collège nommé The Group avant de devenir Obelisk et Crawley God Band qui donnera un seul concert. En 1976, Robert Smith, Mark Secagno et Michael Dempsey forment Malice qui deviendra The Easy Cure avant de prendre définitivement le nom de The Cure en 1979. Alors à partir de maintenant, je vais éviter de vous citer les changements de personnel au sein du groupe car ils sont incessants. Il n'y en a qu'un seul qui est resté, c'est Robert Smith, membre fondateur, compositeur, parolier, chanteur, guitariste et parfois bassiste ou encore claviériste. Donc, en 78, Cure a composé une maquette de quelques titres qu'il envoie à tous les labels. Beaucoup de refus, jusqu'à ce que Charles Perry, un ancien manager des Jam, accepte de les signer sur le label qu'il vient de créer, Fiction Records. Le contrat durera jusqu'en 2001. Très vite, un premier single est publié, une chanson intégralement écrite par Robert Smith, intitulée Killing an Arab. Le titre fonctionne très bien et commence à asseoir la notoriété du groupe, même s'il pose des problèmes. De par son titre, il est en effet récupéré par des mouvements d'extrême droite, alors que Robert Smith a toujours dit qu'il s'agissait d'une version revisitée de L'étranger d'Albert Camus. Il n'y avait aucun message raciste dans cette chanson que je vous propose d'écouter « Killing an Arab ».
We'll be right back.
Profitant de ce succès, le premier album est publié en mai 1979 sous le titre Three Imaginary Boys. Il y a un très bon accueil de la critique, le Melody Maker disant même que les années 80 débutent là. En revanche, ça ne suit pas côté public et commercialement c'est plutôt un échec. Ce premier album est assez surprenant, une tonalité plus pop que rock et des chansons à la qualité inégale, dont une reprise de Foxy Lady de Jimi Hendrix qui aurait pu être évitée. Smith le reconnaîtra lui-même plus tard. Alors bien évidemment, une tournée des festivals d'été est organisée et The Cure se retrouve en première partie de Susie and the Banshees. Robert Smith aime particulièrement ce que font Susie and the Banshees. Et lorsque le guitariste des Banshees s'en va en pleine tournée, Robert Smith se propose pour le remplacer. Il jouera en première partie avec The Cure et ensuite il revient avec les Banshees. Il apprend beaucoup dans cette période et s'en inspire. Dans la foulée, un album un peu bâtard est sorti, il reprend des titres du premier plus des singles inconnus. L'album se nomme Boys Don't Cry, comme le titre qui ouvre le disque. Cette chanson passe à peu près inaperçue. Et il faudra attendre 1986 pour qu'elle soit plébiscitée dans une nouvelle version et devienne un des titres les plus emblématiques du groupe. Le vrai second album sort en 1980 sous le titre 17 Seconds. Il a été enregistré après la tournée avec les Banshees et la tonalité a complètement changé. Il est beaucoup plus sombre que le précédent. Il s'en dégage une impression de froideur gênante pour une partie du public qui ne suit pas, à l'exception de la Nouvelle-Zélande qui l'adore et le propulse en bonne place dans les charts. Personne n'a pu jusqu'à présent expliquer les raisons de cet engouement des Néo-Zélandais. Et on va en écouter un titre qui s'appelle 10-15 Saturday Night. C'est l'histoire d'un type insomniaque parce qu'il pense à une histoire d'amour malheureuse. Alors cet album est le premier d'une trilogie qui se poursuivra avec Face en 1981 et Pornography en 1982. À cette époque, le groupe reste soudé autour de sa base de départ, Robert Smith, Simon Gallup à la basse, très présente dans cette trilogie, et Lol Turthurst à la batterie. C'est une période intense pour le groupe, un album par an, entrecoupé de tournées mondiales épuisantes. C'est une musique sombre et suicidaire comme le qualifie un des membres qui quitte le groupe parce qu'il ne s'y sent pas bien. Les tensions deviennent de plus en plus importantes. Le sommet est atteint avec le dernier de la trilogie, Pornography, qui est sans doute l'album le plus noir que le groupe ait enregistré. On est en plein dans sa période Cold Wave. L'album débute par le titre 100 Years, dont les premières paroles sont « Ce n'est pas si grave si nous mourons tous ». On a le sentiment d'un groupe qui ne se nourrit d'aucune illusion. Ils sont là aujourd'hui, mais ça ne durera pas forcément. D'ailleurs, dans une interview à Libération, Robert Smith dit « Les gens achètent nos disques, viennent nous voir parce qu'ils ont aimé les disques, mais ils ne nous suivront pas forcément là où nous voulons aller. Je ne pense pas qu'on ait de vrais fans. » Malgré cette ambiance, le disque connaît un succès important qui ne se dément pas lors de la tournée promotionnelle. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne se passe pas bien. Les tensions dont je parlais tout à l'heure sont exacerbées et Smith et Gallup en arrivent à se bagarrer à la fin d'un concert. Le dernier titre joué lors du rappel du dernier concert de la tournée se nomme The Cure Are Dead. Et on écoute un extrait de cet album et ça s'appelle 100 Years. We'll be right back. Gallup est parti, Tolhurst décide d'abandonner la batterie et Robert Smith prend un petit peu de recul au Pays de Galles. Cette période de repos permet à Robert Smith d'orienter un changement. The Cure vont publier quelques singles qui seront ensuite regroupés dans un album compilation. Avec la chanson « Let's go to bed », ils ont un style pop et dansant que Robert Smith qualifie lui-même de plaisanterie, au point qu'il ne voulait pas qu'il soit publié sous le nom de The Cure. De 82 à 84, il a rejoint les Benchies de Suzy en qualité de guitariste permanent. On s'interroge à ce moment sur l'avenir de Cure. Le groupe, qui n'en est plus vraiment un, continuera-t-il encore ? Après ce passage chez les Benchies, Robert Smith reprend les chemins du studio avec The Cure. Cette fois, il signe seul tous les titres. Il est devenu le patron absolu de la formation. Seul, Tolhurst est resté au clavier cette fois. En 1984, l'album de Top est publié. Il est accompagné d'une série de clips expérimentaux et psychédéliques. Alors musicalement, ça n'a plus rien à voir avec ce que Cure faisait auparavant. Et ça a pour effet de déstabiliser les fans du début qui ne suivront pas tous. Il faut dire que The Cure devient à ce moment un groupe à stade, c'est-à-dire qu'il va se produire dans des grands stades pour un public nombreux. Les changements de personnel se suivent à une fréquence soutenue, certains musiciens ne resteront qu'à peine une quinzaine de jours. On écoute un titre de cet album et ça s'appelle « In Between Days ». Le vrai changement intervient avec l'album suivant, The Head on the Door, en 1985. C'est lui qui va engendrer un phénomène de Cure mania. The Cure bénéficie d'une couverture médiatique énorme dans tous les pays. porté par certains titres qui deviendront emblématiques du groupe, In Between Days notamment, et Close to Me. Le look gothique de Robert Smith n'y est pas pour rien. Il a les lèvres recouvertes d'un très large trait de rouge à lèvres sur un visage blafard et une coiffure noire de type arachnéen. Une grande partie de la jeunesse va adopter ce style qui restera à la mode pendant quelques années. La référence à Smith est omniprésente. Simon Gallup a réintégré le groupe et son jeu de basse, souvent une basse à six cordes, est une des caractéristiques majeures du son de The Cure. Ce n'est plus un instrument d'accompagnement et elle est même souvent utilisée dans des motifs mélodiques des chansons. On est en pleine période New Wave, très disparate et très hétéroclite. Les ministres de la culture grecque et français vont jusqu'à organiser un festival à Athènes qui regroupe l'ensemble des formations du moment, à commencer par The Cure, Depeche Mode, Orchestral Manoeuvre in the Dark et beaucoup d'autres. Les Cure sont présents partout et ils publieront en 1986 un autre album compilation fêtant leurs 10 années d'existence. C'est dans cet album qu'ils ressortent une nouvelle version de Boys Don't Cry. Pendant quelques années, jusqu'en 1993, le groupe va alterner entre d'interminables tournées promotionnelles et la parution d'albums en studio. Ils sont considérés comme l'un des meilleurs groupes de ces années, ou du moins le groupe le plus vendeur, et aux concerts toujours archi pleins. L'époque est aussi aux clips vidéo portés par la chaîne MTV, et The Cure vont en publier pas mal, filmés par des réalisateurs connus. Alors je vous parlais de Boys Don't Cry, paru en 86, ben, on va l'écouter. Musicalement, si Robert Smith ne signe pas toujours tous les titres dont certains sont attribués à The Cure, il n'en reste pas moins le patron. C'est lui qui décide de l'orientation du groupe et de sa composition. Il vire à tour de bras, embauche des musiciens inconnus qui ne lui font aucune ombre. De temps en temps, il rappelle d'anciens membres. Les disques qui paraîtront durant cette période seront assez divers. Ainsi, en 1989, avec Disintegration, il revient à une musique sombre et mélancolique, chère aux fans de la période Cold Wave. Désormais, The Cure est une référence mondiale. Australie et Nouvelle-Zélande depuis toujours, Europe, Amérique du Sud et même aux États-Unis qui ont été plus longs à les reconnaître. Par exemple, l'année 91 débute par l'enregistrement d'un album MTV Unplugged et se poursuit par une tournée qui démarre en mai aux États-Unis avant d'aller au Canada, au Mexique, en Australie, en Nouvelle-Zélande pour se terminer de septembre à décembre en Europe. Elle donnera lieu à deux albums publics. C'est une tournée qui a duré presque un an quand même. À partir de 1994, des problèmes sérieux apparaissent. Des musiciens s'en vont et partent fonder d'autres formations sans connaître le même succès. Lol Tolhurst intente un procès au groupe et au label pour des problèmes de répartition de royalties. Bref, une ambiance assez pourrie gangrène le groupe sans que Robert Smith ne semble s'en émouvoir. Tolhurst perd son procès, mais le coup porté par cet ami d'enfance passe mal et Robert Smith mettra plusieurs années avant de dire qu'il n'a plus d'animosité contre lui. Le titre suivant que je vous propose s'intitule « Fascination Street ».
We'll be right back.
Il faudra attendre 4 ans avant qu'un nouvel album soit publié en 1996, et force est de reconnaître qu'il est mal accueilli tant par la critique que par le public. Un album jugé trop long et décousu. Ce disque intégrait un violon, un quatuor à cordes et des sections de cuivre qui ne correspondent pas du tout à l'image qu'on avait de Cure. La tournée qui suit ne fait pas le plein. Le temps est passé et The Cure appartient désormais au passé. Robert Smith en avait bien conscience, car avant le début de la tournée, il évoquait la possibilité d'une dissolution des Cure. Malgré tout, le plaisir de jouer sur scène reste le plus fort, et s'il n'y a plus de production de nouveaux albums jusqu'en 2000, il y a toujours quelques concerts à un rythme moins soutenu toutefois. En 2000, c'est donc l'album Blood Flowers qui est publié. Il est soit encensé par la critique ou dénigré car il sent le réchauffer. Robert Smith en dit que c'est le dernier de la trilogie commencée 20 ans plus tôt avec Pornography, le second volet étant Disintegration et Blood Flowers le dernier. Tol Hurst, ami d'enfance de Smith, vit tout ça assez mal. Il prétend aussi que c'est le dernier album que le groupe publiera et que la tournée qui s'en suivra sera également la dernière. Bien qu'assez vite, il revienne sur ses propos. Il n'empêche qu'on le voit de plus en plus souvent collaborer avec d'autres musiciens dans des projets qui n'ont rien à voir avec The Cure. Encore un titre qu'on écoute, The Last Days of Summer.
Never felt so good. so easy. I never even tried. Yeah, it used to be so easy. But the last day of summer
En 2004, il y a un petit sursaut avec l'album juste nommé The Cure, enregistré en prise directe à la sonorité très rock, très brutale. Là encore, l'accueil est mitigé. D'œuvre géniale à mélodramatique chiante, je cite, commercialement ce sera plutôt une réussite. On est loin des succès d'antan, mais ça reste quand même pas mal. Le chant du cygne a lieu en 2008. Robert Smith a l'idée de publier 4 singles en 4 mois. Ils sortiront chacun le 13 du mois, entre mai et août. Et un EP reprenant les 4 titres, remixé, sort le 13 septembre sous le titre Hypnagogic. Puis le 13e album en octobre sous le titre 413. Ça devait initialement être un double album, mais des problèmes de répartition de royalties, encore, viennent contrarier le projet et ce ne sera finalement qu'un simple album. La suite ne verra jamais le jour, d'autant plus que le groupe à ce moment n'a plus aucun contrat avec aucun label. À partir de cette date, il n'y aura plus aucun album studio, mais The Cure continuera de se produire en public et en profitera pour faire des captations de ses concerts. C'est donc une formation qui existe toujours sur le papier et sur scène, mais plus en studio. Le groupe évolue sous forme de trio ou de quatuor avec des musiciens qui changent souvent. Le énième retour de Simon Gallup et même Lol Tolhurst, plus fâché avec Robert Smith. Or, je vais faire l'impasse sur les tournées et les festivals de cette longue période. En 2018, Robert Smith annonce la sortie prochaine d'un nouvel album, mais on attend en vain. À partir de 2022, la tournée intitulée Show of a Lost World propose des titres inédits qui seront publiés dans un album sorti le 1er novembre 2024 sous le titre Songs of a Lost World. C'est le premier album studio depuis 16 ans, c'est dire s'il était attendu. Alors, quelle sera la composition du groupe qui viendra à Nîmes cet été ? Ben ça, je suis totalement incapable de vous le dire. Que joueront-ils ? Je ne peux pas non plus vous le dire, car Robert Smith a annoncé qu'un nouvel album était déjà enregistré et qu'il avait le matériel pour un troisième. On peut tout à fait avoir des chansons totalement inédites dans ce concert. On écoute maintenant un autre titre de The Cure qui s'appelle « The End of the World ». Thank you. 53 années d'existence, c'est plus que bien pour un groupe. Ils ne sont pas nombreux ceux qui ont tenu aussi longtemps, même si dans le cas de The Cure, il n'y a jamais eu qu'un seul membre permanent, Robert Smith. La composition du groupe a toujours évolué en fonction des orientations musicales prises par le patron. Il a souvent changé, new wave, gothique, c'est l'image qui lui colle le plus à la peau, il a été pop et parfois psychédélique ou jazz. The Cure, c'est un bel exemple de formation insaisissable, inqualifiable et toujours surprenante. Robert Smith se revendique de plusieurs sources d'inspiration très diverses. Ses textes, quant à eux, font référence à Albert Camus, à Franz Kafka ou Charles Baudelaire. Il ne s'agit pas de textes politiques ou engagés, ce sont des textes qui évoquent un monde intime, secret, hanté d'images floues, de subtiles tentations, de conflits extérieurs, d'ambiguïté et de déchirement, de fantasmes et de contradictions, selon le journaliste Philippe Blanchet. C'est bien souvent un vocabulaire froid, glacial, mélancolique qui est utilisé pour les décrire. The Cure est toutefois un groupe de scène, comme en témoignent les nombreuses tournées qu'il a toujours faites. À noter aussi que The Cure a toujours prôné un prix abordable des places de concert, entrant en conflit avec la société Ticketmaster, qui avait tendance à augmenter considérablement les prix. Alors je vous ai dit que c'était un groupe de scène, ça aurait été complètement anormal de ne pas diffuser un morceau en public, et ça s'appelle A Forest Live, et c'est enregistré, en 2011. The Cure, on peut aimer, et c'est le cas de beaucoup. On peut moins apprécier, mais il faut reconnaître que ce groupe a marqué une époque et une génération. Il a su conquérir un public qui lui est resté fidèle malgré les changements. Je ne doute pas que le parvis des arènes de Nîmes sera plein les jours de concert, avec beaucoup de fans nostalgiques de la grande époque des Cure. C'est aussi à cela qu'on reconnaît une grande formation, et en l'espèce un grand bonhomme, qui est Robert Smith. Mais on en reparlera de tout ça au mois de septembre, quand le concert aura eu lieu. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une très bonne soirée. À bientôt, au revoir.